بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le dimanche, le premier du mois sacré Rajab de l'année 1447 de l'Hégire, correspondant au 21 décembre 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette rencontre hebdomadaire dans laquelle nous lisons ensemble ces six passages tirés de la biographie de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam par un grand homme de science, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, revivificateur de la religion de l'islam dans la deuxième moitié du 12e siècle. Et on a commencé par lire le deuxième passage de la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Dans le premier, pour rappeler le premier, nous avons vu, dans le premier passage, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a été envoyé à des gens qui commettaient plusieurs péchés, qui commettaient la fornication, et qui commettaient le vol, et qui buvaient l'alcool, et qui faisaient beaucoup de grands péchés. Mais il n'a pas commencé par leur interdire ces péchés. Mais le premier ordre qu'il a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans surat al-Muddathir. Ya ayyuha al-Muddathir, qum fa'anzir. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de les avertir contre l'associationnisme, al-shirk, qui consiste à vouer une adoration à autre qu'Allah. C'est le péché le plus grave en islam. C'est le plus grand des crimes. Et c'est le péché qu'Allah ne pardonne jamais après la mort. Comme vous savez, dans la croyance de Al-Sunnah wal-Jama'a, le croyant qui est sur Tawhid, qui est sur le pur monothéisme, c'est-à-dire toute son adoration, elle est vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'adore pas un prophète, ni un messager, ni un ange, ni un homme vertueux, ni un arbre, ni une pierre. Il adore seulement Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses. Donc ce monothéiste, s'il rencontre Allah avec des grands péchés, desquels il ne s'est pas repenti, s'il se repent, Allah il pardonne tout, et même il transforme ses péchés en des bonnes actions. Lakin si il meurt sans se repentir des grands péchés, il est menacé par le châtiment d'Allah. C'est-à-dire, si Allah ne lui pardonne pas, il peut être châtié en enfer proportionnellement à ses péchés, afin d'être purifié, car le paradis, c'est la bonne demeure dans laquelle n'entrent que les bons, qui sont purifiés de tout mal. Et s'il n'est pas purifié avec le pardon d'Allah, il peut être purifié avec le châtiment. Qu'Allah nous en préserve tous. Lakin malgré cela, regardez, ce monothéiste, malgré ses péchés, il finira en enfer. Il finira au paradis. Il finira au paradis. Contrairement à celui qui rencontre Allah avec shirk. Shirk, c'est le péché qu'Allah ne pardonne jamais après la mort. Allah dit clairement dans le Coran et explicitement, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne jamais qu'on lui donne des associés. Et ça, c'est après la mort. Par contre, pendant le vivant de la personne, même le shirk, Allah le pardonne. Allah pardonne tous les péchés. Du moment que le serviteur se repent et revient vers son créateur, un repentir sincère qui regroupe les conditions du repentir accepté, c'est-à-dire se repentir sincèrement pour Allah, regretter son péché et le délaisser immédiatement et avoir la ferme intention de ne plus jamais retomber dedans. Et avoir la ferme intention de ne plus jamais retomber dedans. Et si c'est un péché vis-à-vis de la créature, il y a une cinquième condition. Tu dois réparer le mal que tu as fait à cette créature. Car Allah ne rentre pas entre toi et la créature. La créature doit te pardonner. Sinon, elle prendra de tes bonnes actions. Ou elle te donnera de ses péchés, si tu n'as pas de bonnes actions. Donc le prophète, quand il a été envoyé dans le premier passage que nous avons vu, il a commencé par combattre l'associationnisme et pas autre chose. Et vous savez que le prophète, sa mission a duré 23 ans. 13 ans à Mecca et 10 ans à Médine. Et durant les 13 années de Mecca, il n'a appelé les gens qu'à une seule chose, de vouer toute l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, tawhid. Et il les a mis en garde contre le shirk. Et le reste des législations de l'islam sont venues par la suite, surtout dans la période médinoise qui a duré 10 ans. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejoint son créateur. Il est décédé après une mission qui a duré 23 ans. Il a reçu la révélation pour la première fois à l'âge de 40 ans et il est décédé à l'âge de 63 ans. Il a rencontré son Seigneur à l'âge de 63 ans. Et dans toute sa mission, il n'a jamais cessé d'appeler au tawhid. Lakin, pourquoi on dit qu'à Mecca, il appelait au tawhid? Car il appelait au tawhid seulement. Mais à Médine, il ne faut pas s'imaginer qu'il n'appelait pas au tawhid, malgré qu'il appelait des gens qui ont atteint les degrés les plus élevés dans la science et dans la foi et dans la crainte d'Allah, qui sont les compagnons, les meilleurs de cette communauté. Il n'a jamais cessé de les appeler au tawhid. Car certaines personnes, quand ils entendent un cours ou un rappel sur tawhid, ils disent « mais on est muslimine, vous nous considérez comme des mécréants ». Le muslim a besoin d'être rappelé sur tawhid, pour rester ferme sur ce tawhid jusqu'à rencontrer Allah. Car la réussite, mes frères, et le succès, c'est pas d'être mouahid un jour, ou une semaine, ou un mois, ou une année. La réussite et le succès, c'est de mourir mouahid. Et la certitude que la chose sur laquelle shaitan te combat le plus, c'est tawhid. Et la chose de laquelle il essaie de t'éloigner le plus, c'est la science de tawhid. Car c'est la plus importante. C'est la science tout simplement qui te permet de connaître Allah. Qui est Allah? Subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où tu auras une grande facilité. Quand tu connais Allah, plus tu vas le connaître, plus tu auras de facilité à lui obéir. Et plus tu vas même être heureux et comblé et épanoui à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui craignent Allah le plus, c'est ceux qui le connaissent le plus. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui aiment Allah le plus, c'est ceux qui le connaissent le plus. Et ainsi de suite. Donc, dans ce deuxième passage, il a dit que le prophète, alayhi salatu wasalam, quand il a commencé sa da'wa, il a commencé à appeler Kuffar Quraysh, ces polythéistes. Kuffar Quraysh avait des divinités diverses et variées. Et ils adoraient Allah, ils adoraient avec lui d'autres divinités. Kuffar Quraysh adoraient Allah et adoraient avec lui d'autres divinités, en prétendant que ces divinités sont des intermédiaires entre eux et Allah, et non pas des divinités qui créent comme Allah a créé. Vous lisez ça dans énormément de versets dans le Coran. Allah dit « Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard la yaqulunna Allah » Qui a créé les cieux et les terres? Tu demandes ça à Abu Jahl, Abu Lahab. Tu lui dis, c'est qui a créé les cieux et les terres? Il te dit, c'est Allah. Alors, pourquoi t'adores Hubal? Il te dit, pour me rapprocher davantage d'Allah. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِي أَوْلِيَا Dans le début de Surat Zumar. Et je vous rappelle toujours, mes frères, ce point très important, de lire le Coran avec méditation, avec compréhension. Prenez-vous un tafsir quand vous lisez le Coran. Comme ça, tu lis un verset, tu le comprends, c'est mieux que de finir le Coran en entier et tu comprends rien de le Coran. Comment on peut s'imaginer que quelqu'un fait une adoration pour autre qu'Allah alors qu'il lit ce verset dans Sourate Zumar? Allah dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Ils disent, on adore ces divinités que pour nous rapprocher davantage d'Allah. C'est ce que tu entendras aujourd'hui de la bouche d'un soufi qui dit « Moi, je n'adore pas le prophète, mais je l'invoque pour qu'il me rapproche d'Allah, car lui, il a un statut très élevé auprès d'Allah. » Et ça, c'est le même shirk qu'avait Kuffar Quraysh. Donc, il est important qu'on comprenne la parole d'Allah. Vous savez que la mémorisation du Coran est quelque chose de très méritoire et demandé. Lakin, ce qui est obligatoire vis-à-vis du Coran, c'est sa compréhension. Allah dit dans le Coran, Kitabun anzalnahu mubarakan liyadabbaru ayatihi. Pourquoi Allah a révélé le Coran? Pour que tu le termines tous les jours. Ça, c'est une ni'ma immense. Lakin, Allah l'a révélé tout d'abord pour que tu le comprennes et que tu le mettes en pratique. C'est pour ça le Hassan al-Basri rahimahullah, ce grand tabi'i, il a résumé ça déjà à son époque, ce fléau a commencé. Il a dit, Allah a révélé le Coran pour qu'il soit mis en pratique, et des gens ont fait de sa simple lecture une mise en pratique. Il ne connaît de la mise en pratique du Coran que la lecture. Et ça c'est un détail, c'est pas l'essentiel. Le fond pour lequel Allah a révélé le Coran, c'est pour que tu le comprennes et le mettre en pratique. Donc, le prophète, alayhi sallam, quand il a commencé à les appeler à l'unicité d'Allah, Kuffar Quraysh au début, ils se sont pas opposés à cette da'wah, car ils sont pas contre le fait d'adorer Allah. Eux-mêmes, déjà, ils adorent Allah. Ils font le pèlerinage. Ils donnent des aumônes. Ils ont reconstruit le Kaaba avec de l'argent halal seulement. Ils ont dit, personne ne ramène de l'argent haram. Ils connaissent très bien le halal. Ils connaissent très bien le haram. Donc, ça, c'est Kuffar Quraysh. Avant que le prophète ne devienne prophète. Ils ont reconstruit le Kaaba après sa démolition. Ils l'ont reconstruite avec de l'argent halal seulement. C'est pour ça, ils étaient à court de moyens. Ils n'ont pas trouvé beaucoup d'argent halal. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas construite comme Ibrahim alayhi salam l'a construit exactement. Et elle est toujours comme ça, comme ils l'ont reconstruit. Donc, ils faisaient du bien, ils adoraient Allah, mais ils adoraient autre avec lui. Donc le prophète alayhi salam, quand il a commencé à les appeler, à adorer Allah, au début, ils ne se sont pas opposés à cette da'wah. Ils n'ont pas dit non, mais qui est Allah ? Ils n'ont pas de problème avec ça. Leur problème, mes frères, Allah il le dit d'une manière explicite encore une fois dans le Coran. Il dit أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. C'est quoi la source de leur étonnement? C'est quoi ce qu'ils ont trouvé bizarre chez le prophète عليه السلام, et étrange, et quelque chose qui n'était pas connu chez eux? C'est pas qu'il les appelle à adorer Allah, c'est qu'il les appelle à adorer Allah seul et délaisser l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais adorer Allah, ils n'ont pas de problème avec ça. C'est pour ça, l'auteur, rahimallah, a dit qu'au début, ils étaient prêts à accepter ce message. Et ça leur correspondait totalement. Jusqu'à ce que le prophète, alayhi sallam, a commencé à montrer l'égarement de tous ceux qui adorent autre qu'Allah et qui vouent des adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où ils l'ont pris comme ennemi. Et c'est là où ils ont fait plusieurs tentatives pour le tuer. Et c'est là où ils ont tout essayé pour l'expulser, si ce n'était la protection de son oncle. Ce qui les dérangeait, c'est pas que le prophète alayhi sallam faisait la salat ou jeûner, Ramadan. Ce qui les dérangeait, c'est qu'il appelait à adorer Allah seul et délaisser toute adoration vouée à autre qu'Allah. Et qu'ils doivent délaisser l'adoration des idoles et des statues. Et c'est connu, comme a dit l'auteur, il a dit, وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَشْتُمْ عِيسَى وَلَا أُمَّهُ. Le prophète عليه السلام, c'est connu qu'il n'a jamais insulté ni dénigré Jésus, ni sa mère. Au contraire, il a montré que c'est un des cinq meilleurs messagers qu'Allah a envoyé aux gens de la terre. Un des cinq meilleurs messagers qu'Allah a envoyé. Et il n'a jamais insulté, ni dénigré non plus les anges, ni les vertueux. Mais quand il leur a affirmé qu'on ne peut en aucun cas les invoquer ni les adorer, et qu'ils ne peuvent nous faire ni du bien ni du mal, ils ont considéré ça comme une insulte. ils ont considéré ça comme une insulte, même comme la pire des insultes. C'est pour ça que vous entendez la même parole aujourd'hui, mes frères. Vous entendez certains qui disent que ceux qui prétendent suivre la sunna, ils ne respectent pas les alliés d'Allah. Ils n'ont pas de considération pour les alliés d'Allah. ما كيحترموش الأولياء. طيب اش نحترم الأولياء؟ رفعوهم لمقام الله سبحانه وتعالى. هذا هو احترام الأولياء. احترام الأولياء هو زيارتهم ومحبتهم في الله، وإن كانوا من العلماء نأخذ منهم العلم ونتعلم من علومهم ونحترمهم ونجلهم، هذا هو احترام الأولياء. أما نعبدوهم ونقول لي يا سيدي بوعلام ولا يا سيدي التجاني ولا يا سيدي ما أدري إيش، هذا ليس من احترام الأولياء، هذا من الشرك بالله، الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه. فنفس الكلام اللي قالوه كفار قريش، ستجد أن من الناس في يومنا هذا من يقول نفس الكلام، يقول هؤلاء لا يحترمون الأولياء. Ils ne respectent pas les alliés d'Allah. Ils n'ont pas de considération pour les saints et les alliés d'Allah. C'est quoi cette considération qu'ils veulent ? C'est que tu leur voues des adorations, que tu les invoques alors qu'ils sont morts et enterrés dans leur tombe. C'est lui qui a besoin que tu invoques Allah en sa faveur. Lui, il t'entend pas. Le prophète, on doit tous savoir qu'il n'entend personne de ce monde dans lequel on est. Il n'entend personne. Il est coupé de notre monde. Il ne sait pas ce qui se passe dans notre monde, sauf ce que Allah lui dit. Ça veut dire, tu vas devant la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam, et tu lui dis, comme la sunna, et de lui dire, assalamu alayka rasulallah, il ne t'entend pas directement. Allah a créé des anges qui lui font parvenir ton salam. Donc que tu lui passes salam en étant devant la tombe, en étant en Chine, en étant aux États-Unis, c'est pareil. C'est un ange qui lui fait parvenir ton salam. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, depuis qu'Allah l'a envoyé, jusqu'au dernier jour, il a appelé les gens à l'adoration d'Allah. Il a même refusé à ce qu'on le salue en s'inclinant. Il a dit ça ne convient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment il a protégé le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala durant toute sa vie. Et toi, tu viens aujourd'hui sous prétexte que t'aimes le prophète alayhi salatu wassalam, tu lui voues des adorations. Tu dis madad madad ya Rasulallah. Le madad, ça se demande à Allah. Lis le Coran et tu vas voir à qui on demande le madad dans le Coran. On ne le demande pas au prophète alayhi salatu wassalam dans sa tombe. Il est coupé de notre monde. Il est certainement dans une des vies les plus parfaites dans la tombe. Car il est le messager d'Allah. Lakin il n'est plus dans notre monde. Innaka la tusmi'u al-mawta. Et ça, c'est des règles qui étaient claires chez les compagnons. C'est pour ça, quand ils ont vu le prophète alayhi salatu wassalam le jour de la bataille de Badr, quand le prophète alayhi salatu wassalam s'est dirigé vers les têtes de la mécréance qui étaient tous jetés dans un puits, qui sont morts sur la mécréance parmi les plus grands ennemis du prophète alayhi salatu wassalam et de l'islam, comme Abu Jahl et autres, quand il est allé sur cette tombe, il a commencé à s'adresser à eux. Qu'est-ce qu'il lui a dit Omar radiallahu anhu ? Il lui a dit au messager d'Allah, tu t'adresses à eux alors qu'ils sont morts. Car ça, c'est la règle de base. Le mort, il n'entend rien. Lakin, le Nabi alayhi salam lui l'a informé qu'Allah leur a permis de l'entendre et d'entendre ce qu'il leur a dit. Donc ça, c'est exceptionnel. Amma, les morts n'entendent pas. Donc si tu vas devant des tombes, invoque Allah en leur faveur et ne leur demande pas l'invocation. L'invocation, lève tes mains et demande à Allah. Quelle impuissance de demander à une créature faible comme toi. Demande au Créateur, subhanahu wa ta'ala, Allah. Donc il dit, on termine avec ça, فَإِذَا عَرَفْتَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَرَفْتَ أَنَّ الْإِنسَانَ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُ دِينٌ وَلَا إِسْلَامٌ. Si tu comprends ce point, tu sauras alors que l'islam de la personne ne sera jamais sur la droiture tant qu'elle ne manifestera pas clairement sa rupture avec les idolâtres et avec l'idolâtrie. Avec les idolâtres et l'idolâtrie. Donc, ce point, c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, dans notre prochaine rencontre. Nous allons le terminer, Inch'Allah, si Allah nous le permet. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khayran. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.